Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens! Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Ils proposent des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Salut Emmanuel.
Salut.
Est-ce que je peux t'appeler Manu?
Ouais, ça sera plus simple. En général, on m'appelle Manu. Donc.
Ok, bah écoute, moi tu m'appelles Bart. Y a pas de souci, mais comme j'ai un très bon copain qui s'appelle Emmanuel et que j'appelle Manu, j'ai été obligé de briser un peu la glace comme ça. Écoute, je suis vraiment ravi de te recevoir sur le podcast Extraterrien parce que bah déjà, moi je suis en train de préparer là le marathon de Paris, donc ça me parle aussi beaucoup de parler à un marathonien et quelqu'un qui aime ça, qui en fait ça depuis très longtemps. Donc je vais essayer aussi de te gratter quelques petits conseils. Mais avant qu'on parle de tout ça, je te l'ai dit, j'aime bien commencer par l'enfance, savoir un peu qui tu étais plus jeune. Et la première question, c'est de savoir quel était ton premier souvenir de sport.
Ah, c'est une bonne question. Si on remonte assez loin, Faut savoir que j'étais pas quelqu'un qui avait énormément de vitesse, qui était forcément talentueux chez les jeunes. C'est-à-dire que quand on était jeune, bah, les crosses par exemple, c'était quoi? C'était 1,5 km ou 2 km de distance. Et j'avais souvent tendance à me faire battre par un peu tout le monde, quoi. Parce que ça partait super vite et que les 500 premiers mètres, ça partait beaucoup trop vite. Et je me souviens, sur une course sur route cette fois-ci, m'être fait battre par une fille. Et ça m'avait vraiment marqué parce que je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Enfin, je pense que du coup, le moment qui m'a marqué, bon, déjà, il y a celui-là où je m'étais fait battre par une fille. Donc j'étais petit, hein, j'avais peut-être 12 ans, 10 ans.
C'est et je pense que.
C'est ça, en fait, je pense que là. Une des choses qui m'a marqué, c'est le jour où j'ai réussi à battre tous ces gars-là qui avaient plus de vitesse que moi et en fait à réussir à les rattraper les uns après les autres et de gagner. Alors ça peut paraître bête, c'était les championnats départementaux, mais la première fois que j'ai gagné les championnats départementaux, bah, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, ah bah voilà, le travail paye un petit peu et je suis champion départemental. Ça me paraissait être la lune à l'époque, mais c'était pas évident.
Pour les collégiens qu'on était, c'était un moment important, quoi, le cross du département et tout. Enfin, il y avait les gars des autres collèges ou des autres établissements, tu le voyais un peu. Enfin, il y avait déjà cette dimension d'équipe, de club aussi, tu vois. Donc, je sais pas si toi, tu courais aux couleurs de ton club ou de ta ville.
Ouais, voilà, bah, c'était le club. Ou alors, bah, il y avait les cross UNSS. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui les ont fait, les cross scolaires. Donc, c'était... avec le maillot de l'école, et c'était sympa aussi parce qu'on sentait vraiment que il y avait deux crosses dans un cross. Le premier cross, il s'arrêtait au bout de 200 mètres, c'est-à-dire que tout le monde voulait arriver le premier au bout de 200 mètres.
Ouais.
Et les gens, ils partaient comme des balles, et ensuite, il y avait le vrai cross, si je peux dire. mais ouais, c'était sympa.
Ok. Si t'as mis un petit peu de temps avant de vraiment de commencer à perfer et tout, qu'est-ce qui t'a fait accrocher? Tu vois, pour un enfant, se faire battre, c'est pas toujours facile. Tu te décris comme étant pas particulièrement doué. Quel plaisir, toi, tu y trouvais pour continuer à pratiquer?
C'est dur à dire. Après, je pense que déjà, c'est une question de... Enfin, faut relativiser. Je me sentais pas très doué, mais j'étais quand même suffisamment fort pour finir dans les 10 premiers des championnats départementaux. Et ça suffisait, c'est bête, mais ça suffisait à me donner espoir, de me dire, ok, bah, je peux finir sur le podium... Puis les sensations qu'on ressent quand on se bat pour essayer d'être champion départemental et qu'on peut se ressentir pour essayer d'être champion de France, bah quand on est petit, c'est les mêmes en fait. Enfin, pour moi, c'était pareil, je voulais passer la ligne d'arrivée en premier. Et c'est une fois que bah on arrive à être champion départemental qu'on se dit bon bah maintenant je vais essayer de faire la même chose aux championnats régionaux et ensuite interrégionaux et ensuite championnat de France. Mais les sensations au final, elles sont pas si différentes.
OK. Est-ce que tu as pu tester un petit peu d'autres sports ou au contraire, est-ce que avec papa, c'était obligatoire de faire de l'athlé et uniquement de l'athlé?
Ouais, bah c'est vrai que mon père, bon, il a beaucoup couru vu qu'il a fait les jeux.
Sur marathon?
Il a fait les jeux sur 10 000 en fait.
Sur 10 000, pardon, excuse-moi, ouais, effectivement.
Ouais, il a fait les jeux à Montréal sur 10 000. Donc c'est vrai que j'ai toujours été dans ce monde un peu de sportif. Maintenant, j'ai fait d'autres sports. Il m'a laissé quand même faire d'autres sports et. Et la raison pour laquelle je suis resté sur la course à pied, c'est pas parce qu'il m'a forcé à faire de la course à pied, c'est surtout parce que j'étais nul dans les autres sports.
T'as testé quoi?
J'ai fait un peu de foot, j'ai fait un an de foot, c'était compliqué, j'ai fait un petit peu de basket aussi, mais je manque un peu de coordination je pense, et un peu de vitesse pure, j'ai quand même de la force, mais je manque un peu de vitesse pure pour avoir des appuis qui sont latéraux, des trucs comme ça, donc c'était pas... moi ça me plaisait, mais ça me plaisait pas dans le sens où j'avais pas... où bah, je savais que j'allais pas gagner quelque chose et que voilà.
Ok, quand tu dis que ouais, tu manquais un peu de coordination, c'est un truc dont tu te rendais compte jeune? Tu le sentais que t'étais... pas aussi coordonné que peut-être certains autres joueurs?
Ouais, bah ouais, enfin, même au niveau morphologique, je sentais que j'avais du retard parce que j'étais très gringalé.
Ok, t'étais déjà très grand?
Ouais, j'étais relativement grand, mais sur un cross de 2 km ou 5 km par exemple, c'est la puissance qui joue beaucoup. Quand on est jeune, celui qui fait 50 kg, il va battre celui qui en fait 35, c'est... Peu importe la VO2, peu importe le talent, mais après en s'accrochant, bah, le niveau y revient en fait, parce que ça rattrape et voilà.
Ok, intéressant l'approche que t'en fais. Ce manque de puissance, tu l'as évoqué deux fois, du coup c'est quelque chose que toi tu travailles là encore beaucoup aujourd'hui?
Ouais, je le travaille. Après c'est vrai que maintenant, bah, bizarrement je manque plus tellement de puissance en fait, parce que je pense que j'ai rattrapé... pas forcément parce que je l'ai travaillé, mais parce que bah, ça a été ma progression, si je peux dire. Enfin, ça a été l'évolution. Chacun a des évolutions différentes d'un point de vue morphologique. Et oui, bah oui, je travaillais un peu quand j'étais jeune. Mon père, il me faisait beaucoup de circuits, en fait, avec des lattes, des plots, monter d'escalier. Pour rendre la chose un peu plus ludique, par exemple, au mieux d'aller courir en forêt ou de faire des côtes, bah, on faisait beaucoup ça. On faisait des circuits un peu intenses. Et c'est vrai que bah, c'était une manière de travailler un peu mon pied, ma vitesse, à un plus jeune âge, mais d'une façon ludique. Alors que maintenant, bah, je vais continuer à le faire, mais bon, ça va être plus être à la salle de sport. Sous les poids, voilà.
Ok, donc tu as toujours eu ton coach particulier pour toi, en tout cas en tant que junior, quoi.
Ouais, voilà, bah oui, jusqu'à junior espoir, bah, il était très très présent dans mon entraînement. Je pense que ça a été utile parce que bah, il a quand même une bonne vision de l'entraînement et il a pu bien m'aiguiller.
Ouais, et ça n'a jamais étouffé, tu vois. Moi, je dis ça parce que bon, je suis peut-être un petit peu plus rebelle que toi, mais moi, j'avais besoin de prendre des distances avec mes parents, tu vois. Mon père a essayé de me mettre dans le judo parce qu'il était champion de France junior. Et donc, très tôt, c'était le judo. Et le tennis, c'était aussi un peu pour moi une façon de trouver mon propre sport à moi, tu vois. Toi, c'était pas étouffé ou au contraire, c'était en garde des super souvenirs de père-fils?
Ouais, c'est un peu... C'est marrant ce que tu dis parce que c'est un peu ça, quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai fini par, aux alentours de peut-être 19 ans, 18 ans, j'ai décidé de changer d'entraîneur parce que déjà la course à pied de base, c'est un sport difficile. Alors quand on va à l'entraînement, on pense sport, on rentre chez soi, bah, à table, on parle sport. Enfin, c'est un ensemble de choses qui faisait trop en fait. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un autre entraîneur et changer un peu de structure d'entraînement. Et ça m'a fait du bien, c'est sûr. Enfin, je te rejoins complètement sur ce que tu dis, c'est que bah, on a beau avoir un père qui nous soutient et qui veut le meilleur, bah, forcément il se projette un petit peu et il a envie que son fils fasse le même sport et des fois c'est un peu trop, c'est un peu de pression et pour les deux parties, hein, pas que pour moi.
Bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour tu vois, ces athlètes qui sont restés à s'entraîner avec leurs parents pendant très très longtemps, Marion Bartoli, Pierre-Hugues Herbert ou même Raphaël Nadal dans le tennis, tu vois, qui ont fait quasiment toute leur carrière avec un oncle ou un parent, tu vois.
Ouais, non, c'est vrai que c'est impressionnant. Je me suis déjà posé la question aussi comment ils faisaient. Après, peut-être que les relations, enfin, chaque relation est différente, donc.
Bien sûr.
Donc voilà, moi je sais que mon père il a tendance à beaucoup stresser.
Ouais.
Donc, et encore plus avec l'âge, donc quand il est sur des compétitions, bah. Il va stresser, ça va se transmettre, donc c'est quelque chose que je commence à avoir du mal. Donc, ouais.
Et là, avec l'expérience, tu t'es jamais dit, tiens, voilà, j'imagine qu'il est toujours très proche de toi et que tu peux l'appeler à n'importe quand, mais c'était déjà traversé l'esprit de te dire, tiens, est-ce qu'on pourrait reconstituer le duo ?
Pas forcément. Après, il est encore très présent, parce que c'est-à-dire que sur certaines séances, bah, il va être là avec le vélo ou il va prendre les chronos. Même si je pense qu'il a une très bonne vision de l'entraînement, l'entraînement a changé entre les années 60, 70 et maintenant. Et je pense que j'ai beaucoup appris avec lui.
Ouais.
Mais bah, comme je disais, je pense que les méthodes ont changé et c'est bien de faire d'autres choses.
Et de séparer un peu les...
Et de séparer surtout.
Qu'on se le dise. Mais ok. Du coup, toi, tu as toujours eu cette envie d'en faire un métier, d'en vivre du sport parce que tu avais cet exemple là ou est-ce que au contraire c'est venu avec le temps?
Ouais, je sais pas trop comment l'expliquer parce que bah, je pense que j'ai toujours voulu ou su que j'allais en faire mon métier même quand j'étais pas si fort que ça. Je sais pas pourquoi, mais je savais peut-être qu'il y avait l'exemple de mon père, donc je savais que j'avais les gènes et que si je continuais à travailler, j'aurais cette possibilité-là. Mais ouais, j'ai toujours voulu, depuis que j'ai 15 ans, je me suis dit, bah oui, j'aurais sûrement un métier normal à côté, mais je continuerai ma pratique à 100%. Tous les soirs, j'irai courir, je ferai les compétitions. Et enfin, quand j'avais 15 ans, je savais que 10 ans plus tard, à 25 ans, je serais encore sur le circuit et je savais que c'était un plan à long terme. Maintenant, pourquoi c'est compliqué à dire, ouais.
Bien sûr. T'imaginais déjà la distance sur laquelle tu performerais?
Non, pas forcément. Je pensais surtout faire du 10 km, 5 km. Après, je pensais au marathon. Tout le monde a envie de faire du marathon un jour, mais à 15 ans, on se projette pas sur le marathon tout de suite, c'est sûr.
Ok. Et c'était quoi tes distances de prédilection? On va dire aux alentours de 18-20 ans. C'est sur quelle distance que tu prends le plus de plaisir?
Bah, c'est sur le cross, je pense. Moi, j'ai toujours été un grand crossman parce que faut savoir que les profils sont différents en cross et sur piste parce que sur piste, bah, la surface est dure, donc forcément, ça va avantager ceux qui ont de la vitesse, qui ont des fibres musculaires rapides, ceux qui sont bien coordonnés, etc. Alors qu'en cross, c'est un peu différent, parce qu'on a des appuis qui sont mous, et ça m'arrangeait beaucoup, je pense. Et c'est là-dessus où j'ai pris le plus de plaisir, parce que c'est ma première sélection en équipe de France, c'était en cross, en 2012, et j'en ai fait plein après coup, des sélections en cross, et c'est là où j'ai accroché des top 10 aux championnats d'Europe le plus souvent, en fait.
Ouais, ouais, ouais. Je trouve qu'il y a une atmosphère particulière sur les crosses, notamment au départ. Notamment, tu vois, quand on est jeune, il y a un petit peu de concurrence, il y a des petits coups d'intox, parfois des petits coups tout court. Comment ça se passe sur un cross, tu vois, au niveau professionnel, au niveau du départ? Vous êtes combien? Et est-ce que ça joue autant des coudes que justement quand on est sur les niveaux inférieurs, plus jeune?
Honnêtement, ça joue un peu moins des coudes, je pense. Enfin, dans les crosses que j'ai fait, bon, j'ai fait les championnats du monde de cross et c'était un des crosses où ça a le moins joué des coudes.
Okay.
Pourtant, j'étais quand même parti dans les 20 premiers ou dans les 25 premiers. Je pense que c'est dû à plusieurs choses, mais déjà, la densité de personnes est moins élevée, plus le cross sera de haut niveau et moins il y aura beaucoup de monde sur la ligne de départ à vouloir partir vite, en fait.
Ouais.
Sur un championnat d'Europe, on va être 80 au départ. Il y en a 20 qui viennent de plus petits pays, comme la Moldavie, etc., qui ne vont pas forcément jouer les premiers rôles, donc ils ne vont pas forcément partir super vite.
Ouais.
Et donc au final, il n'y en a que peut-être 60, 50 qui se disent « bon, bah, faut que je sois dans les premiers, et donc sur la ligne de départ ». Donc il n'y en a pas tant que ça au final par rapport à un cross UNSS scolaire, où on était, moi j'en ai fait un, où on était 900 ou 800 sur la ligne de départ.
Je vais dire 1000 gamins.
Ouais, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est qu'à cet âge-là, bah, sur les 1000 personnes qui sont, sur les 1000 gamins qui sont présents, il y en a 800 qui pensent qu'ils peuvent gagner le cross, quoi. Donc ils passent tous super vite au bout de 100 mètres. Et c'est là que ça joue des coudes, en fait. C'est quand il y a des gens qui sont pas forcément à leur place, si j'ai envie de dire.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vois très bien. Il y a cette même tension sur la ligne de départ, tu vois, où ça se regarde un petit peu entre les différents adversaires.
Ouais, bah ouais, un petit peu. Le cross, c'est beaucoup plus tactique que la piste et c'est ça que j'aime bien. Il y a moins de calculs, en fait. Enfin, sur la piste, on fait des tours en une 8, une 7, etc. Et on essaye d'être régulier, quoi. En cross, c'est plus comme le Tour de France. Tu vas avoir une échappée, un gars qui va partir. Derrière, ça va se regarder, ça va peut-être revenir. Une attaque sur une côte, une descente, une chute. Il y a plus de rebondissements et ouais, il y a un peu un jeu de poker, des fois.
Et c'est quoi ta stratégie à toi? Justement, bah tiens, on peut le dire peut-être sur la course de ta victoire au championnat de France. C'était quoi ta stratégie que tu voulais mettre en place? Est-ce que c'est gros départ et tenir devant? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt être attentiste derrière le peloton de tête pour placer ton attaque toi au bon moment? Comment est-ce que tu te situes comme type de coureur?
Je sais pas si j'ai envie de dévoiler ma stratégie, par contre, là. non, mais moi, je suis quelqu'un qui tient pas forcément... très bien l'acide lactique, donc un départ très rapide sur les 500 premiers mètres, c'est quelque chose qui peut vite me mettre lactique, donc en général j'essaye de pas me cramer. Il faut que je sois suffisamment bien placé pour voir la tête de course, pas à fond non plus, parce que sinon je sais que si je suis lactique, mon corps va avoir du mal à éponger toute cette fatigue du début de course. La vérité, c'est que quand j'étais champion de France, sur un cross super boueux comme il y a eu, faut juste savoir gérer son effort, en fait. La tactique était moins importante, il fallait juste pas faire d'à-coup, un peu comme courir un marathon, quoi. Faut pas faire d'à-coup, parce que chaque effort il se pécache, c'est pas comme sur un parcours super plat. Dans la boue, chaque effort se pécache. Et voilà, en fait, je voulais surtout jauger un peu mes adversaires avec des accélérations très progressives. Et quand j'ai vu qu'à l'arrière, bah, ça commençait à grimacer, ça m'a donné confiance et je me suis dit, bon, maintenant je peux un peu lâcher les chevaux. Et en général, c'est un peu comme ça que j'essayais de courir, c'est-à-dire que j'assure sur le premier tiers de course et ensuite je sais que sur mon endurance et sur ma foulée, je peux réussir à faire de bonnes choses. Et surtout que on dirait pas forcément, mais au final j'ai quand même une bonne vitesse terminale, mais j'ai pas forcément une bonne vitesse pure à l'état pur. Sur un 100 mètres je fais pas moins de 12 secondes, mais à la fin d'un cross je peux aller très très vite, et je sais qu'il y en a pas beaucoup en France qui peuvent aller beaucoup plus vite que moi dans un 200 derniers mètres à la fin d'un cross de 10 km, donc ça me donne aussi confiance là-dessus.
Ouais, bien sûr, bien sûr. T'as des parcours de prédilection?
Si je devais faire le parcours parfait, pour moi, c'est un parcours tout plat, très boueux, des virages gentils, on va dire. Comme ça, ça me permet, comme je peux avoir une assez grande foulée, ça me permet de me déployer ma foulée. Et le parcours boueux, ça permet de ralentir aussi la course. Donc c'est les parcours parfaits pour moi. Alors qu'à l'inverse, les parcours rapides, typiquement les parcours des États-Unis sur un terrain de golf, avec des virages à 180 degrés, des demi-tours, etc. Bah ça, c'est
beaucoup de petites côtes.
C'est ça, c'est les pires parcours pour moi parce que à chaque fois je suis arrêté, je suis obligé de repartir, j'ai l'impression de faire des 30-30 et ça me met lactique, quoi.
Ouais. Ok, ouais. C'est dingue, tu vois. En tout cas, je suis content de pouvoir en parler avec toi, mais de voir à quel point aussi la morphologie et le type de course influencent sur la stratégie et de voir comment on peut se placer, quoi.
Ouais, bah c'est pour ça que le cross, c'est intéressant, justement, parce que rien n'est écrit à l'avance sur un cross. Voilà, il faut juste se battre et c'est le meilleur qui l'emporte. Et le plus malin aussi, des fois.
Ouais, c'est vrai. Non, et puis tu me fais réaliser, tu vois, moi j'ai fait beaucoup de courses d'obstacles parce que j'avais besoin d'avoir quelque chose en plus que juste courir. Bah, j'étais plutôt bon parce que justement, il y a beaucoup de relances, beaucoup de petites accélérations et je dois être peut-être un petit peu plus sanguin que toi, tu vois. Et du coup, c'est des parcours qui me correspondent bien, quoi.
Quand tu dis courses d'obstacles, c'est.
Bah, tu sais, tous les types Spartan Race, tu vois.
Ah oui.
Donc, c'est des crosses, mais. Au milieu desquels tu dois faire porter des poids, grimper
à
des
Koh-Lanta,
cordes
ouais.
Un peu, ouais, exactement, ouais. C'est toujours très sympa à faire avec les copains et d'ailleurs ceux qui gagnent sont souvent des athlètes qui ont fait du demi-fond mais qui ont une petite quand même appétence pour le trail aussi parce que c'est assez technique et ouais, faut beaucoup relancer, quoi. Ça monte et ça descend. Plus jeune, c'était qui les athlètes qui te faisaient rêver, qui te donnaient envie de courir plus vite?
Ouais, c'est une bonne question aussi. Bon, j'en ai au moins un qui me vient à l'esprit, c'est clairement Bob Tari, parce que on voyait pas beaucoup de Français ou d'Européens rivaliser avec les Kenyans, et pour moi c'était un peu il a fait une médaille et c'était le premier, parce que mec ici il en a fait une avant, mais je crois que j'avais pas vu, je regarde pas beaucoup l'athlé quand j'étais petit, et il se trouve que bah j'ai vu la course de Tari à l'époque et ça m'avait assez impressionné. Pour être franc, je regarde pas tellement l'athlé à l'heure actuelle non plus, mais je regardais pas mal le Tour et un gars comme Sylvain Chavanel, c'était un peu mon idole à l'époque.
Ouais, moi aussi j'aimais bien son côté un peu timide, très réservé et très humble aussi, je trouvais. Il a fait de belles perfs, il nous a bien fait rêver sur quelques courses.
Ouais, des petits maillots jaunes, des échappées en baroudeur, des trucs.
Écoute, Sylvain, si tu nous écoutes, t'es le bienvenu sur le podcast. Mais pourquoi tu regardais pas l'athlé? C'est parce que t'en avais déjà beaucoup à la maison?
Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Je pense qu'il y avait peut-être un peu de ça. Et puis, l'athlé, c'est dur de se mettre dedans quand on connaît pas forcément les gens. Si je regarde à la télé un championnat d'Europe ou un championnat du monde, et que je regarde la course de 10 000 et qu'il n'y a personne que je connais, bah, l'intérêt, il est moins grand. Il est moins grand, donc je pense que je n'ai jamais réussi à me mettre dedans aussi quand j'étais petit. Après, maintenant, je connais un peu plus les gens parce que je cours avec, donc au contre. Donc forcément, l'intérêt, il monte un petit peu. Mais je pense que d'un point de vue purement intérêt de la course, c'est moins intéressant qu'un Tour de France où il y a toute une stratégie qui est mise en place. En course, il y a aussi une stratégie, mais c'est pas pareil, c'est moins flagrant à regarder à la télé.
Ouais, puis t'as moins le temps de la commenter aussi, ça va un peu moins vite, ça joue sur plusieurs jours.
Ouais, non, c'est ça, c'est
ça. Plus de caméras, plus de moyens aussi pour voir, analyser, tu vois, de loin un peu ce qui se passe, quoi.
Ouais, et puis bon, sans leur jeter la pierre, mais je pense que les commentateurs sont peut-être moins doués en athlé que dans d'autres sports.
Je sais pas, hein, mais...
Enfin, en tout cas, en demi-fond, peut-être, je sais pas, peut-être pas, mais...
Non, mais c'est juste que c'est un métier très différent où ça joue très vite, et pendant une grande partie de la course, c'est difficile d'analyser, tu vois, vraiment ce qui est en train de se passer. Ça se déclenche, tu vois, quelques minutes avant la fin, et c'est pas toujours facile, quoi. Mais en tout cas, c'était en parlant avec Johan Koval, j'imagine que tu connais un peu, hein, qui me disait aussi Bob Tari l'avait beaucoup inspiré. Alors il me semble que Bob Tari était un des premiers à être allé s'entraîner au Kenya, tu vois, et notamment aller rencontrer les Kenyans. Alors, je sais pas si c'est une impression que j'ai, peut-être que je me trompe, mais toi c'est quelque chose qui te tente, auquel tu réfléchis aussi?
Ouais, j'aimerais beaucoup pour l'aventure humaine d'aller au Kenya et découvrir des choses, plus que pour l'entraînement lui-même, parce que je pense que c'est très facile de faire des erreurs à l'entraînement au Kenya. Mais ouais, j'aimerais beaucoup, c'est sûr que avant la fin de ma carrière, j'irai au Kenya au moins une fois, si ce n'est plus. J'aurais aimé y aller là cette année, mais j'avais un souci de pubalgie, une tendinite qui a traîné. Et je me suis dit, bon, c'est pas forcément le meilleur moment pour aller au Kenya. Mais ouais, j'aimerais beaucoup.
Ok, tu sais déjà qui est-ce que tu as envie de rencontrer ou avec qui tu aurais envie d'aller courir ?
Bon, si j'y vais, moi, ce qui me ferait plaisir, mais c'est pour ça qu'il faut que je sois malin et que j'arrive à bien caler les compétitions, ce qui me ferait plaisir, ce serait d'aller avec les groupes de Kenyans et d'essayer de faire la compète avec eux, quoi, à l'entraînement. Mais après, du coup, ça risque un peu de me cramer, donc il faut que je fasse attention au niveau des compétitions. Mais je suis assez compétitif, donc je sais pas comment je réagirais si je devais courir avec un groupe de 50 Kenyans et...
T'as fait le choix, peut-être tu pourras nous dire la date, mais t'as fait le choix de passer sur la distance marathon. Ça va faire combien de temps ? 2 ans déjà ou...
Peut-être 3 ans maintenant.
3 ans maintenant, alors que tu faisais des super perfs, tu vois, sur des distances un peu plus courtes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
Ah, je pense qu'il y a eu plusieurs choses, mais déjà j'ai été champion de France de cross en 2019, et ça me motivait peut-être un peu moins d'essayer d'être champion de France une deuxième fois. Ce que je voulais, c'était plutôt essayer de me qualifier, par exemple, aux Jeux Olympiques, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas le cross-country n'existe pas aux Jeux Olympiques. Il y a un championnat du monde, mais il est beaucoup, même s'il est très relevé, il est moins reconnu que le championnat du monde l'été en athlée.
Bien sûr.
Et je me suis dit, bon, bah, j'ai fait un des objectifs de ma carrière, ce qui était d'être champion de France de cross. Maintenant, je vais essayer peut-être de modifier ma foulée, mais essayer de passer sur d'autres distances, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas forcément bon sur piste, j'étais pas forcément bon sur les autres disciplines, et je me suis dit, bon, bah, c'est une aventure à tenter et j'ai vraiment envie de pas avoir de regrets, quoi.
Ok. Et c'est impossible de concilier les deux ?
Non, je pense que c'est possible. Non, c'est totalement possible. C'est juste que la saison des crosses, elle va se goupiller en même temps que la saison des marathons. C'est-à-dire que à l'automne, il va y avoir tout ce qui est championnat d'Europe de cross de sélection. Donc j'ai pu faire les championnats d'Europe depuis 2019. Et ensuite, au mois de mars, c'est les championnats de France. Et c'est là aussi où il y a la deuxième partie des marathons. Donc tout ce qui est marathon de Paris, Londres, Rotterdam, tout ça, c'est dans cette période. Donc c'est compliqué de faire le cross un objectif principal. Après, c'est très possible de participer aux championnats de France de cross, par exemple, et d'être bon. Hein. Et je pense qu'il n'y a aucun souci avec ça. C'est juste que du coup, ça dépend de sur quoi on veut axer la prépa.
Ouais, ok, je vois très bien. Beaucoup de problématiques d'agenda et notamment quand tu prépares sérieusement un marathon, j'imagine que toi, tu l'anticipes à 6 mois. Tu vas me dire un petit peu comment est-ce que tu t'organises et comment tu t'entraînes. Mais c'est un projet qui s'imagine au moins limite à 1 an, je pense, même peut-être plus. Ça peut tomber comme un cheveu sur la soupe de caler un cross important en plein milieu de la prépa, quoi.
Ouais, voilà. Bah après, on peut le caler. Hein. C'est pas le souci de le caler. C'est le souci, c'est de le caler et d'être à 100% de ses moyens. Quand on prévoit un objectif super important, on a des objectifs secondaires, comme par exemple le cross, admettons, mais on ne va pas forcément se reposer à 100% pour faire cette course-là. On va pas, c'est ça qui est compliqué, parce que du coup, ça veut dire arriver sur une course où on ne sera pas forcément à 100%. Sinon, pour ce qui est de la prépa, c'est vrai que je ne vais pas faire des prépas aussi longues. Je vais plutôt voir à 3-4 mois à l'avance. Après, j'essaye toujours de rester un peu flexible et ouvert, parce qu'il peut toujours y avoir des changements, des trucs, une blessure qui vient par là. Ou bon.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est faut rester ouvert.
Ouais, bien sûr. On a été mis en relation, tu vois, par Puma, qui est ton équipementier pour les chaussures et pour l'équipement. Moi, je serais curieux de savoir justement comment est-ce que tu organise un petit peu ta préparation pour sur un marathon. Tu vois, quelles sont les séances que tu apprécies beaucoup, les séances que tu apprécies moins, et quels sont un peu peut-être les points techniques que tu es en train de travailler en ce moment.
Bon, alors les points techniques, on va commencer par ça, parce que bon, je sors tout juste d'un marathon, en fait, vu que j'ai fait un marathon là dimanche.
Bien sûr.
Du coup, les points techniques, il y en a pas mal à bosser, j'imagine. En fait, il se trouve que bon, j'ai fait quelques marathons, j'en ai terminé 4 et... Et sur ces 4-là, à chaque fois, j'explose complètement en plein vol aux alentours du 35, 36, 37e kilomètre.
Okay.
Et j'ai du mal à savoir si c'est d'un point de vue purement énergétique, c'est-à-dire que j'ai pas assez de sucre lent dans le corps pour faire fonctionner les muscles, ou alors si c'est d'un point de vue purement musculaire, dans le sens où mes muscles, ils prennent tellement de dégâts avec tous les chocs répétés du marathon qu'ils ont du mal à fonctionner sur la fin. Donc ouais, j'aimerais bien, là-dessus il faut que je bosse un peu plus, que j'arrive à analyser un petit peu, savoir si en faisant des sorties beaucoup plus longues, je retrouve ces mêmes sensations qu'en compétition ou non, savoir si c'est alimentaire au niveau du ravitaillement. Du coup ouais, il y a un souci, enfin je sais que je me sens très très bien aux allures marathon. Même si je me sens bien, il y a un moment donné où je cale, quoi qu'il arrive, même en partant doucement. Enfin, là-dessus, il faut que je vois un petit peu.
Okay.
Parce que je pense que mon record aux 10 km, il est suffisant pour prétendre à des bons chronos sur marathon. Donc je pense que le souci, il n'est pas forcément en termes de vitesse. Et du coup, dans mes prépas, moi, ce que j'aime bien en général, c'est plutôt tout ce qui est seuil. Donc seuil, c'est quand on est un peu en aisance respiratoire, c'est vraiment la limite. Bah, c'est, comme son nom l'indique, c'est le seuil à laquelle... le corps va consommer autant d'oxygène qu'il va en avoir besoin pour ses muscles. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, faire des périodes de 5 fois 10 minutes, par exemple. Ou bon, y a plein de séances dérivées qu'on peut faire, on peut s'amuser avec ça, c'est des séances que j'apprécie.
Peut-être justement, là, avant un marathon, combien de séances au seuil tu vas faire sur une prépa ou...
Bah, sur une semaine, admettons, je vais avoir admettons, 4 séances en tout. Et sur ces 4 séances, je vais en avoir 3 qui seront en seuil, je pense, ouais, 3-4. Donc, enfin, ça fait ouais, peut-être 80% de mes séances sont des séances à allure marathon, quand je fais du marathon en tout cas.
Ok, donc ça, c'est tes séances préférées. Et à l'inverse, les sorties que t'aimes les moins, elles ressemblent à quoi ?
Pendant longtemps, j'avais beaucoup de mal avec les sorties longues, justement. Donc, c'était peut-être un peu mon point faible sur le marathon, justement, Mais c'est assez étonnant parce que je vais avoir tendance à faire une sortie de 35 km. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je fais 35 km, dont les 5 derniers kilomètres à allure marathon, par exemple. Ou les 10 derniers kilomètres à allure marathon. Et quand je fais ma sortie, donc je cours à peut-être 16 à l'heure, et j'ai l'impression de pas être bien. Et dès que je passe à allure marathon, après, d'un coup, je me sens un peu mieux. Quoi. Comme si mon corps, il mettait des choses en place et il se disait, bon, maintenant, c'est important et il faut y aller, quoi.
Okay.
Ou je sais pas, peut-être que mon corps est pas économique à courir à 16 à l'heure et que je me sens pas très bien. Mais ouais, je sais que courir longtemps à des allures moyennes, ça me barbe un peu.
Ouais, ok. T'as besoin de jeu et...
C'est ça, je pense qu'il va falloir que j'écoute tous les podcasts.
avec plaisir. Écoute, avec nous, le temps passe plus vite et plus agréable. Donc, t'écoutes des choses d'ailleurs pendant que tu cours ?
Non, parce que... c'était pas mon point de vue forcément de base, parce que déjà mon père c'était un puriste de l'athlé et il aurait jamais accepté un truc comme ça. Et pendant longtemps j'ai gardé un peu la même idée, mais c'est vrai que maintenant que je fais du marathon, je me dis que ça serait sympa d'écouter des podcasts ou quelque chose, en tout cas quand je fais des allures pas démentes, ça permet de faire passer le temps plus vite, parce que par exemple je pensais je fais pas mal de vélo sur Home Trainer, et là ça me dérange pas d'écouter des podcasts ou des trucs, donc si je pouvais le recréer en course, ça rendrait la chose plus facile. Ouais.
Ah mais nous avec nous, c'est, il y a des kilomètres qui sont plus faciles, hein. Ça permet d'avaler du volume et tout, donc je te le garantis, mais je sais que c'est pas forcément compatible avec des séances très sérieuses et très très précises, quoi. Donc
ouais, c'est ça aussi, et puis je fais beaucoup de mes footings à 16 à l'heure et je sais pas si j'aurai la capacité de me concentrer à 100% sur le podcast en étant à 16 à l'heure en courant, mais sur des footings à 12-13 à l'heure, ouais, je pense que ça peut être bénéfique.
Ok, tu fais encore des footings à 12-13 à l'heure ?
Quand je double, c'est-à-dire que quand je cours deux fois dans la journée, je vais avoir un footing ou une séance principale. Donc là, sur mon footing principal, ça va être 20 km en 1h20 à peu près. Et ensuite, le soir ou le matin, ça dépend, je vais faire un petit footing, soit d'échauffement si c'est le matin, soit de récup le soir. Et là, ça peut aller jusqu'à 50 minutes, mais vraiment, je ne me prends pas la tête avec les allures. Je cours, je peux commencer. En plus, j'ai une belle petite côte en partant de chez moi. Donc, des fois, je peux, si je ne le sens pas, je la fais en marchant au début ou je la cours à 10 à l'heure. Donc, vraiment, je ne me prends pas la tête sur ces trucs-là. Je pense que si quelqu'un me croise sur ces footings-là, il doit se dire, il vient de commencer la course, il n'est pas très doué.
Ok, c'est une belle intox. Ok, hyper intéressant. Je me posais, tu vois, comme je le disais, qu'on bossait un peu là dans le cadre de cette collaboration avec Puma. Toi qui es passé justement du cross à la route, on va dire, entre guillemets, tu devais aussi beaucoup courir sur route avant, mais ça a été important pour toi le choix du matériel et le choix des chaussures notamment.
Ouais, quand même. Enfin, quand on fait beaucoup de kilomètres pour le marathon, donc je suis quand même à 180 km semaine peut-être, il y a une fatigue musculaire qui peut facilement s'installer, pas forcément une fatigue nerveuse, mais une fatigue musculaire. Enfin, ça va être ça la contrainte, une des contraintes à l'entraînement, donc avoir des chaussures avec suffisamment de mousse, suffisamment d'épaisseur, ça permet d'amortir les chocs énormément. Et je sais que j'ai une paire de chaussures, la Magnify, avec laquelle je cours beaucoup. J'ai l'impression de courir comme si je courais sur de l'herbe, en fait. Un peu. Ça, j'apprécie beaucoup. Même quand je suis sur la route, j'ai l'impression que c'est mou. Et ouais, c'est vraiment sympa.
C'est ça que tu recherches, du coup, avoir le plus d'amorti possible et pour avoir du confort.
Ouais, voilà. Sur la plupart de mes footings et une bonne partie de mes séances, je cherche plutôt l'amorti que la réactivité. Après, ça veut peut-être dire que du coup, je vais un chouïa moins vite que je devrais en séance, etc. Mais ça me permet de rajouter quelques kilomètres de séance ou une séance en plus à la fin de la semaine, je suis largement gagnant.
Bien sûr, ouais. Puis ça peut te permettre aussi d'éviter des blessures et de pouvoir allonger les distances, c'est clair que c'est pas négligeable. Tu cours un peu du coup avec des semelles plaque carbone, j'imagine ?
Ouais, en compétition du coup, c'est carbone obligatoire.
Maintenant, ouais. Et en dehors de ça ?
Ça peut m'arriver, ouais, en séance, ouais, c'est souvent que je vais avoir une plaque carbone. Après.
Mais tu fais pas tout.
Non, je fais pas tout. En footing, ça peut forcément d'intérêt. Puis même, enfin, je trouve que c'est un peu bête d'user une paire de chaussures carbone sur un footing à 16 à l'heure, alors qu'on en a pas besoin en soi. Enfin, j'en ai pas besoin.
Pour toi, t'en as pas besoin à 16 à l'heure. Moi, à 16 à l'heure. Moi, à 16
oui,
à l'heure,
c'est ça. En fait,
j'en ai besoin.
Après, ce qui est surtout intéressant maintenant, c'est la mousse, je pense, le fait d'avoir. D'avoir de la mousse dans les chaussures, ça perd. Enfin, au niveau de la récup, ça se sent.
Ouais, toi, tu le sens beaucoup, ouais.
Ouais.
C'est quoi, c'est plutôt sur les mollets ? Mollets, cuisses, fatigue du pied ?
Plutôt cuisses. Après, moi, je cours pas trop avec les mollets. Il y a des coureurs très dynamiques qui vont courir beaucoup avec les mollets,
c'est
mais c'est pas
moi.
Mon cas.
C'est pour ça que je te demande.
Ah, c'est les tennisman.
Exactement, on compense.
Ouais. Moi, ça va être surtout au niveau des quadriceps. Et du haut des jambes, en fait, parce que c'est là que je vais chercher la force. Et puis même au niveau des hanches, il y a moins de tension qui va se créer. Donc dans l'ensemble, je peux rajouter un peu. Ouais.
Ok. Comment tu organises tes saisons là pour justement te préparer sur les échéances à venir ? Quels sont toi tes gros objectifs ? Et comment est-ce que tu t'organises pour tout ça ?
Ah, le gros objectif à moyen terme, même à court terme, maintenant c'est quand même les Jeux, enfin la qualif pour les Jeux. Donc l'objectif c'est de courir le plus vite possible sur un marathon. Donc pour ça, il faut trouver un marathon plat et avec des lièvres, etc. Donc il y en a quelques-uns sur le calendrier. Et voilà, le but c'est juste de s'habituer un maximum à l'allure demandée. Donc c'est 3,02 au kilo.
C'est costaud.
Donc ouais, c'est assez costaud. C'est dur parce que 3,02, moi j'ai l'impression d'être facile, sauf que bah, quand on arrive au 30e ou au 35e, bah, 3-0-2 c'est plus facile quoi.
Ouais, bien sûr.
3-0-2 au 35e, c'est comme du 2-52 sur un 10 000 quoi. C'est, ça devient tout de suite plus compliqué. Je suis focalisé sur le marathon et on verra après les jeux.
Ça remplit bien déjà le programme.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis bon, même s'il n'y a pas les jeux, il y a d'autres compétitions. Il y a les championnats d'Europe qui vont arriver l'année prochaine, il y a les championnats du monde cet été. Donc c'est aussi deux objectifs importants et voilà, j'aimerais y être.
Bah ok, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, comme on dit. Il y a une très grosse densité en plus de coureurs, tu vois, sur marathon. Je citais Johan tout à l'heure, qui en plus se fait le luxe de passer pareil du 10 000 au marathon. Il y a une très très grosse densité. Forcément, le public français, on est heureux parce que il y a de belles bagarres et on sait qu'il y aurait une très belle équipe de France pour Paris, mais la concurrence est rude, quoi. Et c'est dur de savoir à l'avance qu'il n'y aura pas de place pour tous nos coureurs chouchous, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se focaliser, se dire, bon, bah, je fais les Jeux de Paris et ma carrière sera réussie, ou alors je ne fais pas les Jeux de Paris et ma carrière sera ratée. Je pense qu'il ne faut pas avoir tout blanc ou tout noir. Mais ouais, il y a une grosse densité. Et honnêtement, bah, je préfère ça que ce qu'il y avait en 2010, 2011, où en gros, on avait un coureur en 2-12, 2-13 et c'était tout, quoi. Donc, bon, même si les chaussures aident, hein, maintenant, on va pas se mentir, c'est une des raisons pour laquelle les chronos ont évolué. Mais je pense quand même que le niveau français, même avec les chaussures, c'est un peu redressé par rapport au niveau mondial. Parce que maintenant, bah, on a quand même des prétendants au top 10, voire un peu mieux pour les Jeux Olympiques, etc. On a Mourad Hamdouni, on a Nicolas Navarro qui, tous les deux, font partie des tout meilleurs mondiaux. Donc, ouais, ça pousse un peu, quoi.
Ouais, à toi d'aller les chatouiller et de montrer que tu peux avoir ta place aussi, quoi.
Ouais, exactement, exactement. Je me dis, j'ai le moteur pour, maintenant, il faut que j'arrive à trouver comment tenir la distance, quoi.
Bien sûr, écoute, t'as 13 du temps pour le faire et je sais pas s'il existe une formule magique, mais en tout cas, celle de l'entraînement, tu la connais, cette formule, donc et t'as l'air d'y prendre goût. T'avais fait le choix de partir aux États-Unis, je sais pas si tu y retournes là régulièrement. Qu'est-ce que tu étais venu chercher là-bas?
Bah, à la base, c'était à la fin de mes études. Enfin, en fait, j'ai fait 3 ans d'études après le bac et j'étais un peu à un carrefour où je me suis dit... Bon, qu'est-ce que je fais? Et je peux me lancer à 100% dans le sport, ou alors je peux me lancer, ou alors bah, je serais obligé de continuer peut-être mes études pour pouvoir allier sport et études, mais j'avais pas forcément envie, et ou alors trouver un travail en fait. Et je savais que ça allait être aussi compliqué parce que j'avais trouvé un travail à temps plein et au niveau de la course, ça allait être compliqué. Et du coup, j'ai eu cette opportunité de rejoindre une université où j'allais continuer un peu mes études là-bas, mais c'était payé. Et le sport allait prendre une part beaucoup plus importante dans ma vie, vu que là-bas, le sport universitaire, c'est presque du sport professionnel, en fait. Et du coup, pour moi, c'était un bon entre-deux, en fait, avant de me dire, bah voilà, je fais du sport à 100%, 100%, bah, c'était un peu en mode, je fais du sport à 90% et je vois. Donc c'était surtout pour ça, et puis le fait de bah évidemment voir une autre culture, puis voir ouais c'est ça, voir ce qui se passe ailleurs, c'était le bon moment pour le faire, je pense. Au début j'étais presque un peu peur d'y aller, si je peux dire, parce que je me disais bah ouais forcément je les connais, j'y suis jamais allé, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment l'entraînement va se passer, les cours, je parlais pas super bien anglais. Et je m'étais dit, bon, bah, j'y vais, et si ça me plaît pas, bah, au bout d'un semestre, je pars, et en fait, je suis resté 3 ans.
Ouais, ça veut tout dire. T'as parlé de découvrir une autre culture, mais c'est aussi une autre culture du sport, je pense, une culture de la performance qui est différente et qui fonctionne bien, quoi.
Ce qui a un peu changé ma façon de voir les choses, c'était l'esprit d'équipe qui pouvait y avoir là-bas, parce que c'est vrai qu'en France... Bon, déjà, on n'est pas énormément d'athlètes de haut niveau en demi-fond. Et on est un peu tous dispatchés à droite, à gauche. Et il y a un peu ce côté, comment dire, égocentrique, où, où même si on se connaît tous, bah, on veut tous se battre les uns les autres et on s'entraîne chacun un peu en sous-marin de son côté, quoi. Alors que là-bas, bah, ce qui était super important, c'était le classement par équipe plus que le classement en individuel, en fait. Et du coup, bah, on s'entraînait en groupe, on mangeait ensemble, etc., etc. Et du coup, il y a une émulation, mais surtout un esprit d'équipe qui naît assez facilement. Et ça, c'était super sympa parce que faut savoir que le cross universitaire aux États-Unis, il est super relevé. Ma meilleure place, c'était 11e. Et du coup, bah, on savait tous individuellement dans notre équipe qu'on ne pouvait pas monter sur le podium sur ce championnat-là. Mais par contre, on savait que si jamais tous on était à notre niveau, on pouvait monter sur le podium par équipe. C'est un peu ce qu'on a fait. On a fait le hold-up deux fois, où on fait une fois deuxième et une fois troisième. Donc c'était beau.
Bon, bah écoute, ouais, chapeau. Et c'est vrai qu'on peut reprocher plein de trucs aux Américains, mais s'il y a un truc dans le sport qu'ils ont bien compris, c'est que les sports individuels ne se gagnent pas seuls. Se regrouper entre très haut, enfin entre athlètes de haut niveau, ça fonctionne toujours, quoi. Enfin, ça permet de créer une émulation qui est très forte et de rajouter cette couche de collectif, c'est sûr que ça fonctionne bien.
Ouais, non, c'est clair. Je savais même pas que ça existait avant de partir. Ouais, non, moi, mon départ, c'était un peu presque bienvenue chez les Ch'tis. Hein. C'était à la okay. fin. Je voulais pas repartir. Mais
Hyper, hyper intéressant. Je vois que l'heure tourne. Je m'étais engagé à te libérer parce que je sais que tu as des choses à faire après. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment. Pour clôturer, comme je te le disais, on pose une petite question de la fin qui est de savoir quel est le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu aimerais bien découvrir sur un format justement un peu plus long comme celui-ci et à qui tu aimerais tendre le micro.
Bon, on en a parlé tout à l'heure. Alors, je pense que je vais dire peut-être Sylvain Chavanel.
Ok.
Même si je sais pas si ce sera très facile de l'avoir, mais Sylvain Chavanel, ouais, ça serait cool. C'est sûr que j'écouterai à 1000%, ouais.
Bah écoute, challenge accepted. Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur lui si on va le voir?
Quel sport il aurait aimé faire si c'était pas du vélo ou ouais, s'il devait choisir par exemple entre je sais pas moi la gagne au Giro ou un podium au Tour de France, un truc comme ça.
Ok, ça marche. Je lui ferai un petit, une petite question de tu préfères ça ou ça et puis on verra.
Ouais,
on verra
si. J'ai pas eu le temps de réfléchir aux questions, mais.
C'est mon boulot. Hein. Ouais. C'est mon boulot, t'inquiète. Écoute, merci pour la reco et merci pour ce super moment. J'ai kiffé parler technique et mettre un petit peu dans cette ambiance du cross et voir un petit peu ta transition avec toi. Donc vraiment, je touche du bois. Je n'ai pas ici, mais en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour la prépa et pour les années à venir. Je suis sûr que tu nous réserves de très belles choses. Comme on dit chez moi, je te dis à bientôt parce qu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
Bon, merci infiniment et merci de m'avoir accepté ici.
Salut, à bientôt.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.